Tout pour investir, le déchiffrage.
Le déchiffrage, comme chaque jour, pour débuter cette émission avec ce matin en plateau, Olivier Le Chevalier, directeur général de Gift Age. Bonjour Olivier.
Bonjour Étienne.
Merci de nous accompagner ce matin. Avec vous, on va parler donc des marchés financiers, mais également de sujets un peu plus légers, donc comme la pistache ou encore le chocolat de Dubaï. Juste avant, vous pouvez nous rappeler qui est Gift Age?
Alors que fait Gift Age? Gift Age est une solution SaaS spécialisée pour aider les entreprises en fait à piloter leurs risques de change et leurs matières. Donc on les aide aussi bien à pricer leurs instruments de couverture qu'à suivre leurs sous-jacents, qu'à effectuer la comptabilité, leurs IFRS et la consolidation dans ce cas. Voilà.
Donc vous suivez très bien ce qui se passe sur les marchés des matières premières, des devises, et c'est vrai que là, depuis la guerre en Iran, il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire, effectivement. Et après, on ne sait plus aussi comment se placer, je dirais, depuis cette guerre, parce qu'un jour ça monte très haut, le lendemain ça redescend un peu, donc il y a aussi des effets un peu contradictoires et des effets d'annonce qui sont assez difficiles à suivre, en tout cas pour les entreprises.
Voilà. Et ça bougera peut-être encore dans les prochaines heures, avec donc les banquiers centraux qui prennent la parole. Ce matin, on a eu la Banque du Japon, demain la Fed, jeudi donc la BCE. Qu'est-ce que vous attendez là de la Fed, de la Banque centrale américaine, qui est quand même la plus grosse banque mondiale, à prendre la parole avec Jerome Powell, ça sera
exactement
sûrement sa dernière réunion demain.
Exactement. Bah, du coup, là, ils sont quand même coincés entre deux choses. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi voulu, au départ, ils veulent baisser les taux pour pouvoir relancer, en tout cas, la consommation, etc. Là, ils sont à peu près en étau avec la guerre en Iran. C'est-à-dire que, ils vont envoyer un message contradictoire s'ils baissent les taux. Donc voilà, parce qu'ils doivent aussi, dans ces deux missions là, ils doivent lutter contre l'inflation, Jerome Powell. Donc baisser les taux, ça va pas permettre de limiter l'inflation. Et donc aussi de l'autre côté, vous avez l'énergie qui passe son temps à se renchérir. Donc effectivement, là ils sont coincés entre dire je relance la consommation et je limite l'inflation. Donc là, c'est vraiment la difficulté auquel ils font face. Je pense qu'ils vont surtout annoncer qu'ils feront une baisse de taux peut-être plus tard pour soutenir. Et là, pour le moment, c'est pas l'occasion de faire de cette prise de décision. Donc aussi, avant de laisser aussi sa place pour Kevin, qui est plutôt dans quelque chose de Kevin Warsh, qui est plutôt quelqu'un qui sera plus interventionniste ou qui sera plus régulé ou qui a envie de resserrer la gestion de la Fed. Je pense que là, pour le moment, ils vont pas bouger, ils vont faire certainement un statu quo pour éviter, pour limiter quand même l'impact de l'inflation de l'énergie et éviter de trop pénaliser la consommation actuellement.
Voilà donc cette réunion qui se tient aujourd'hui et demain, et avec donc une communication qui va se tenir demain aux alentours de 20h heure française.
Exactement. Et du coup, on a la même cas, comme vous disiez, pour la banque japonaise, qui ne veut pas baisser de ses taux pour limiter en tout cas l'inflation. Donc du coup, ils sont aussi pris en étau entre l'énergie qui se renchérit et puis du coup de renforcer. Eux, c'est l'inverse, c'est-à-dire de renforcer leur taux pour limiter l'inflation et son impact.
C'est des sujets qui peuvent paraître assez lointains pour un auditeur, téléspectateur. Il se dit oui, les banques centrales, comment ça me concerne, etc. Mais ça a quand même un impact parce que c'est quand même ces banques centrales qui décident du prix de l'argent et donc in fine pour des prêts immobiliers, pour des prêts pour les entreprises. Et puis derrière, il y a également des mouvements de change, et vous êtes bien placé pour le savoir, qui ont là aussi un impact non négligeable pour des entreprises qui souhaitent exporter, importer. Puis on parlera du pétrole dans un instant, ça a également un effet très important,
voilà, les changes. Exactement, en fait, le taux d'intérêt impacte directement, comme vous le disiez, sur le taux d'emprunt pour les ménages, mais aussi quand vous allez prendre un instrument de couverture type un contrat à terme, effectivement, on se base sur ce taux d'intérêt. Donc plus le taux d'intérêt est élevé, et plus ça peut vous pénaliser, par exemple, si vous êtes acheteur ou vendeur, tout dépend du sens de la devise. Donc ça va se renchérir ou s'affaiblir en dépendant de votre sens. Mais du coup, c'est un impact non négligeable sur les entreprises. Donc aujourd'hui, par exemple, le taux américain est plus élevé que le taux européen. Donc quand vous achetez du dollar à terme, ça vous favorise, mais en revanche, si vous êtes vendeur, ça vous pénalise. Voilà, donc vous perdez de la marge directement.
À suivre donc la Fed, la Banque Centrale Américaine, demain soir. Il y aura également donc les GAFAM qui vont publier leurs résultats mercredi soir et jeudi soir. Pendant ce temps, les cours du pétrole continuent de progresser. On est sur des plus hauts de 3 semaines là ce matin, quasi 110 dollars pour un baril de Brent. Exactement. Et c'est dans ce contexte que Shell a annoncé hier soir se diversifier. Ils vont investir 16 milliards de dollars pour acheter un concurrent américain. Exactement. Alors non pas dans le secteur pétrolier, mais dans le secteur du gaz, dans le gaz de schiste au Canada. C'est intéressant de voir qu'au moment où les cours des matières premières progressent, bah, on a des acteurs qui se mobilisent pour se diversifier.
Exactement. Donc, en fait, déjà, il y avait... Alors, si je permettais, je vais reprendre juste deux, trois premiers signals. C'est vrai que là, le fait qu'ils aient fermé les routes et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'il y a un premier signal. C'est-à-dire que les raffineries que vous avez en Asie, elles vont couper leur production parce qu'elles n'arrivent pas à importer en fait du pétrole actuellement. Donc, ça veut dire que c'est la Corée du Sud, le Japon, la Chine et l'Inde qui commencent à couper leur production. Ensuite, deuxième signal, c'est le canal de Panama qui s'est renchéri parce que tout le monde cherche à faire transiter du pétrole le plus possible. Donc, c'est pour ça que ça... Et le troisième signal, bah, c'est vrai que vous avez quand même Goldman aussi qui est dans la dynamique de dire qu'on va monter peut-être aux alentours des 120 dollars le baril à cet effet. Et là, tombe sur Shell, où Shell, le dernier directeur en place qui était qui est présent, le CEO Wael Sawan, en fait, qui avait été embauché déjà pour redresser Shell, s'était séparé en fait d'activités, notamment en 2023, d'activités polluantes. Et on voit bien que là, la guerre énergétique fait qu'ils reviennent sur le devant de la scène en rachetant la société Arc Ressources. Donc quand même, ils la paient 13,6 milliards, dont les trois quarts en actions Shell. Et en plus, ils récupèrent la dette de cette société pour 2,8 milliards. Et en fait, ils vont payer une prime aussi de 20% pour le cours d'Arc. Ce qui leur apporte un bénéfice, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer 370 000 barils par jour. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va leur permettre d'augmenter leur production de 1 à 4% sur l'année. Effectivement, ils sont plus dans les activités en fait, de gaz, de schiste, etc. Mais en fait, ils sont là aussi pour montrer qu'ils viennent sécuriser l'énergie. Et donc, d'où ce retournement aussi de dire, bah, avant, c'était pas très intéressant et pas très sexy de travailler sur les produits pétroliers, qui n'était pas EFG, enfin dans cette dynamique qui était polluante. Et donc forcément, là, on voit bien qu'ils ont pris la décision de racheter cette société pour se réinstaller dans le paysage.
Voilà donc pour Shell qu'il faut suivre ce matin à la Bourse de Londres. Dans 10 minutes, Gilles Santacreux sera avec nous depuis boursicoté.com. Il nous donnera un petit peu son sentiment sur l'état des marchés actuellement. En tout cas, vous, aujourd'hui, Olivier Le Chevalier, vous regardez le VIX. C'est l'indice de la peur hein, aux États-Unis sur le S&P 500.
Oui.
Quand vous le voyez, ce VIX, qui est sur des niveaux plutôt bas, hein, c'est vrai, il ne montre pas des signes de panique, qu'est-ce que vous vous dites?
En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que ça fait trois semaines en fait, qu'il se calme, qu'il baisse. En fait, comme vous disiez, c'est l'indice de la peur qui est lié aux actions américaines. Ça veut dire que si... Quand les investisseurs sont stressés, nerveux, en fait, vous avez le VIX qui monte. Mais quand il descend, ça veut dire qu'il est en forte baisse et signifie que les marchés actions sont dans une phase relative de sérénité. Donc, et pourtant, malgré la guerre en Iran. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous allez plutôt aller vous retourner vers des devises. Hein, parce qu'en fait, quand vous avez, je sais pas si vous voyez ce que c'est que les devises à fort bêta. Non, c'est ce que ça vous parle, toutes ces devises.
C'est en fonction de la volatilité.
Exactement. C'est en fonction de la volatilité. En fait, les devises qui ont un bêta élevé, c'est parce qu'elles sont corrélées, par exemple, à des matières premières. Donc, vous avez en ce moment l'AUD, le dollar canadien, etc. Donc, en fait, les investisseurs vont se retourner vers cet appétit au risque, peut-être de miser sur ces devises qui sont liées à des matières premières actuellement. D'où, en fait, cet effet où le VIX a tendance à se stabiliser et à redescendre sur des niveaux plus intéressants et qui laissent, je dirais, la volatilité autour des actions américaines un peu plus tranquille. Donc, en tout cas, voilà, c'est quand le VIX baisse, voilà, commence en ce moment, ça veut dire que les investisseurs quittent les valeurs refuge et se repositionnent sur ces devises à fort bêta qui peuvent être l'AUD, le CAD, etc., qui apportent et qui sont liées et corrélées aux matières premières actuelles.
Et pour nous, en tant qu'Européens, ça a quoi comme impact sur l'euro? On a vu l'euro se détendre un petit peu là, enfin rendre quelques points face au dollar là depuis une semaine ou deux.
Alors en fait l'euro est corrélé quand même, au dollar évidemment, mais c'est-à-dire que déjà le premier point c'est quand le baril se renchérit, le baril de Brent là vous avez dit on passe de 100 à 102, en fait il a un impact immédiat sur le dollar, c'est-à-dire que le dollar en fait s'affaiblit en même temps. Donc là pour nous, effectivement plus le Brent va monter et plus le dollar aussi peut potentiellement s'affaiblir. Donc quand vous êtes acheteur de Brent, vous allez regarder le cours du dollar versus le cours du Brent et du coup on pourra profiter, on n'aura pas exactement la même hausse en termes de pente, mais c'est-à-dire que pour nous actuellement, le dollar s'est affaibli. Donc là, ce qu'on voit entre une période sur ces trois derniers mois, c'est-à-dire qu'on a quand même fait le yo-yo entre du 1,15 et du 1,20. Donc quand vous êtes dans le cadre d'une société ou d'un investisseur qui achète des actions en dollars, soit ça peut vous pénaliser, ou soit ça peut vous aider aussi en termes de sortie. Mais en tout cas, ça va avoir un impact, au fait, un peu négatif quand même sur votre gestion quand vous travaillez en devise, effectivement.
On est à 1,17 là ce matin, 1,1702 sur cette
exactement
devise euro-dollar. Pour vous, c'est un bon niveau. Comment vous la voyez? Comment aujourd'hui vous la percevez quand vous échangez avec vos clients qui peuvent être des industriels ou des financiers?
Là, on est, je dirais qu'on vient quand même des niveaux où on était en dessous des 1,10 en début d'année. Et donc, effectivement, pour une entreprise qui est vendeuse, elle aurait aimé vendre tous ses dollars, tout son chiffre d'affaires à 1,10. Et là, effectivement, sa difficulté, c'est de savoir se positionner. C'est quand il faut prendre les bonnes actions, parce qu'en fait, dire je vais prendre des couvertures à terme, c'est génial, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la vie du quotidien. Est-ce qu'elle continue à vendre? Est-ce que forcément ça a un impact direct sur les transporteurs, le fait que il n'y ait pas de pétrole, le détroit d'Ormuz soit bloqué? Donc ça déstabilise aussi le marché du fret, ça déstabilise aussi vos achats, vos ventes. Donc en fait, vous êtes dans ces difficultés. Après, quand vous êtes là dans la partie achat, parce que vous achetez des produits en devise, vous dites que vous êtes déjà ça vous bénéficie, parce que du coup vous venez d'un taux qui était super bas, donc vous allez mieux acheter à l'international. Et en plus, avec l'effet, comme on disait tout à l'heure, des taux d'intérêt, en plus vous achetez en fait votre dollar encore un petit peu moins cher. Il y a un effet en tout cas bénéfique. Donc la difficulté aujourd'hui se situe, comme on l'a pu le voir, sur les exportateurs français qui vendent en devise. On a pu le voir notamment sur des groupes comme Pernod Ricard, tous ceux qui sont à l'international, le luxe, qui pâtissent en fait aussi de ces marges qui sont reniées par ces effets de change. Et donc vous avez deux mondes, vous avez aussi là où la direction financière doit rassurer les marchés et dire on va faire de la progression, et puis vous avez aussi ce frein de marché qui peut venir vous ralentir dans votre progression, dans la progression de vos résultats.
Et pour ça, on a des entreprises qui se couvrent néanmoins.
Oui, toutes les entreprises se couvrent, mais elles le font de manière liée à des
jamais éléments à 100%.
Ouais. Pas à 100% et toujours liée à des éléments tangibles.
On va terminer par les cours de la pistache, hein, parce que c'est vrai que là, on est peut-être sur un sujet qui est plus amusant, un peu plus parlant pour nos auditeurs téléspectateurs qui ont peut-être remarqué que oui, les cours de la pistache depuis le début de ce conflit en Iran, ont très largement progressé. Et puis alors, on se souvient qu'il y avait une mode, c'était l'an passé ou il y a deux ans, autour du chocolat Dubaï. Le chocolat de Dubaï, là aussi, c'est l'une des victimes un petit peu de ces prix de la pistache, puisque forcément, on se retrouve parfois sur des pénuries.
Exactement. Alors, ce qui était intéressant, c'est parce que sur DevTech, on fait aussi tout ce qui est agroalimentaire. Donc, en fait, on suit différentes matières premières. Donc, un coup, ça peut être le jus d'orange aussi, que je vous recommande de suivre régulièrement, ou effectivement le cacao, le chocolat. Bon, c'est ça. Et là, en fait, la pistache, ça paraît pas, mais c'est l'Iran est le deuxième exportateur mondial, en fait, de ça. Et depuis le début du conflit, c'est complètement bloqué. Donc, maintenant, il n'y a que les Américains qui produisent en masse de la pistache. Et en fait, les cours ont quasiment pris 50%. Donc, on est passé à 4,57, je crois, dollars la livre. Et donc, du coup, en fait, il faut savoir que l'Iran, quand même, exportait sa pistache en Europe, en Asie et sur d'autres pays. Donc là, il n'y a plus que les US qui peuvent exporter. Et donc, forcément, le Dubai Chocolate en subit cette pénurie. Voilà. Donc,
mais c'est pas la seule matière première. Hein. C'est vrai que l'année dernière, on avait parlé des cours du café. Enfin, ça reste, c'est le tas de plein de matières premières agricoles qui ont des volatilités extrêmes.
Tout à fait. Donc, en tout cas, en général, quand on a parlé de toutes les matières passées, cacao, jus d'orange, etc., l'année passée, c'était quand même lié aux pluviométries, aux maladies qu'on retrouvait en fait sur les plantes ou sur les arbres. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait une telle augmentation et l'effet aussi du changement climatique. Donc là, ça s'est calmé cette année, d'où c'est pour ça les cours, par exemple, du cacao sont passés de 12 à 2500 livres, pardon, la tonne. Donc effectivement, tout ça était lié quand même relativement aux matières premières. Au dérèglement climatique, pardon. Alors que là, pour le détroit, c'est lié à la guerre en Iran, où on peut plus laisser passer ces pistaches. Comme vous pouvez le voir aussi par rapport à l'agriculture, tout ce qui est engrais, où ça commence à créer des stress. Alors que le marché du blé ne remonte pas non plus dès qu'il y a des annonces Voilà. Donc tout dépendra aussi des résultats des différents pays sur les différentes cultures.
Et donc on rappelle, hein, l'Iran c'est le deuxième producteur mondial de pistaches. Et donc exactement. Là on a des cours qui sont sur des plus hauts de 8 ans.
Hein, exactement, ça. Exactement. C'est le plus haut depuis 2018.
Avec une progression de
50%. 50%. Oui, exactement. Qui atteignent, comme je disais tout à l'heure, 4,57 dollars la livre.
Voilà, voilà. Ça sera à suivre dans les prochaines semaines. Comme quoi, il n'y a pas que le pétrole à suivre de jour en jour pour.
Non, on parlera du bitume. Voir si l'impact. Vous
ah oui, le bitume. Exactement. On aura l'occasion d'en reparler la prochaine fois.